Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va tenter ce soir d'évaluer l'action de la justice en matière de répression et de prise en charge des violences sexuelles. Et mes invités seront Véronique Legoasiou, sociologue, et Mathieu Borrette, procureur du tribunal judiciaire de Reims. Notre époque a pris conscience de la gravité des violences sexuelles, encore plus après l'hashtag MeToo, et qui ont montré la puissance des réseaux sociaux. La réaction de la justice est jugée insatisfaisante, inadaptée, trop verticale, pas assez consciente de la souffrance des victimes. Mais pour éviter, comme le dit Laurent Grelzemer, que la parole libérée se transforme en un immense café du commerce où chacun cause sans savoir, Esprit de justice a réuni ce soir deux personnes qui savent de quoi il parle. En la personne tout d'abord de Véronique Legoasiou, sociologue, et qui a écrit un ouvrage déjà en 2011, « Viol aux assises, analyse sociologique d'un crime », à la découverte, et puis plus récemment, « Viol, que fait la justice ?», un livre dont j'ai eu l'honneur de rédiger la préface. Et pour en débattre avec elle, Mathieu Borrette, qui est magistrat procureur auprès du tribunal judiciaire de Reims. Bonsoir.
Bonsoir.
Ma première question va à vous, Véronique Legoasiou. Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs quelques chiffres sur le viol ? Le nombre de viols supposés, le nombre de viols poursuivis, le nombre de viols condamnés ?
Alors, oui, je peux le faire. On a trois types de chiffres. On a, commençons par les plus simples, les viols connus de la justice, saisis par la justice. On estime, en gros, suivant les années, qu'on a 13 à 14 000, jusqu'à 15 000 affaires de viols par an, saisies par les tribunaux, dont la justice va s'occuper. Sur ces 13 à 14 000, jusqu'à 15 000 affaires de viols connus de la justice, on en a en gros deux tiers qui sont classés par la justice, c'est-à-dire qui vont arrêter leur chemin pénal au niveau du parquet, au niveau des procureurs. Un tiers qui va donner lieu à des poursuites. Et sur ce un tiers qui donne lieu à des poursuites, seul un petit tiers aussi terminera en cour d'assises. Donc si on rapporte le nombre de condamnations au nombre de viols connus de la justice, on a en gros 10 à 15% de viols qui sont effectivement jugés par une cour d'assises. Et le troisième chiffre que l'on peut avoir est issu d'enquêtes de victimation.
C'est ça, mais c'est par cet à côté le plus important.
Oui, c'est le plus important. En tout cas, c'est celui qui est le plus incertain aussi. Le plus incertain, oui, parce que toutes les enquêtes ne se ressemblent pas. En tout cas, celui qui est censé refléter la parole des victimes, puisque ce sont des enquêtes au cours desquelles on demande à des personnes représentatives d'une population, par exemple la population française, s'il leur est arrivé de subir un certain nombre de victimations, parmi lesquelles les violences sexuelles. Et là, alors on a des enquêtes, en gros, depuis les années 2000, mais routinisées, c'est-à-dire qui ont lieu tous les ans depuis 2007-2008. On a, en gros, autour de 90 000 personnes par an qui disent avoir été victimes d'un viol. Mais ce sont
sans
des chiffres...
Plainte. Pardon ? Sans porter plainte.
Parmi lesquels il y en a qui peuvent porter plainte.
Voilà. D'accord, c'est ça.
En fait, on peut comparer, si vous voulez, si on compare le nombre de personnes qui, dans ces enquêtes, principalement des femmes, bien évidemment, mais pas exclusivement, disent avoir été victimes d'un viol au cours de l'année écoulée, c'est comme ça que ça marche, ces enquêtes, eh bien, seuls 1 à 2% de ces viols seront effectivement jugés par la justice au bout de la chaîne pénale. Voilà, on peut comparer l'amont et l'aval.
Donc une immense perte en ligne, dites-vous.
Une immense perte en ligne. Une première perte en ligne entre les déclarations des victimes dans les enquêtes de victimation et le fait qu'elles portent plainte. On estime à peu près, alors il faudrait bien sûr voir l'effet qu'aura le mouvement MeToo, Balance ton porc, c'est trop tôt pour le dire. On a vu une hausse des plaintes modestes, il faudra voir dans les années qui viennent si cette hausse modeste des plaintes devient une véritable tendance. En tout cas, on estime que la justice ne connaît qu'à peu près 10% des affaires de viol, soit le sommet de l'iceberg. Et elle méconnaîtrait 85 à 90% de l'ensemble des viols qui sont commis. Et sur ce petit 10%, seuls encore 10 à 15% des viols finiraient aux assises. Voilà les chiffres qu'on a.
Mathieu Borrette, ils ne vous surprennent pas ces chiffres ? Vous les connaissez ?
Non, Antoine Garapand, ils ne me surprennent pas. Ils sont sans doute conformes à ce que nous pouvons connaître dans un tribunal de taille moyenne comme celui de Reims. L'un des éléments qui me permet effectivement d'aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est le fait que lorsque nous avons la découverte d'une affaire d'agression sexuelle ou d'une affaire de viol, il n'est pas rare que nous découvrions à partir d'une déclaration, soit une pluralité de faits commis dans un laps de temps relativement long, soit une pluralité de victimes. Et la parole de l'une, parce qu'effectivement, là, dans la plupart des cas, ce sont des femmes et des jeunes filles, et souvent dans un cadre familial ou de proximité, et bien dans un certain nombre de cas, la parole se libère parce qu'il y a un risque où il y a une réalité d'un autre passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on s'est tu pendant plusieurs années.
C'est la peur de ce qui peut advenir qui fait parler, c'est pas l'envie de purger le passé.
C'est en partie le fait de se dire, à tort ou à raison, moi je peux assumer et j'ai pu assumer ce que j'ai subi, mais je ne laisserai pas une petite sœur, une cousine, le subir également. Et d'ailleurs, l'un des éléments probants dans ce type d'affaires, c'est la pluralité des paroles, oui. C'est la pluralité des victimes.
C'est ça. Et puis, la similarité du modus operandi, comme on dit dans la justice, c'est-à-dire de la manière de faire et qui parfois signe un acte.
Absolument, et on vérifie à chaque fois si les victimes ont été en contact, en ont parlé, et on se rend compte dans un certain nombre de cas que elles n'en ont pas parlé. Chacune est venue nous dire des choses. La première, bien parce que elle l'a subi et elle a décidé de parler. La deuxième, ce sont souvent les enquêteurs qui vont en indiquant, mais ta ou votre petite sœur ou cousine nous a indiqué que vous aussi vous aviez pu être victime de ce type de fait.
La sociologie a étudié aussi la plainte, hein, Véronique Le Goasiou, oui. La plainte. Pourquoi
elle a étudié Antoine Garapon. Pas tant que ça, je trouve.
Pas assez.
Parce que je pense qu'il y a une sorte de méprise de ce point de vue-là. On a le sentiment, dans les représentations peut-être un peu communes que l'on a du processus pénal, que la plainte est un point de départ. Or, en fait, en dépouillant avec une équipe plusieurs centaines maintenant de dossiers judiciaires de viol à différentes étapes de la chaîne pénale, nous avons été surprises, pourrais-je dire, puisqu'il n'y avait que des sociologues femmes qui travaillaient sur ce sujet, surprises de constater que pour certaines plaignantes, voire certains plaignants aussi, la plainte est plutôt une arrivée. Notamment dans les affaires classées. J'ai été très surprise de constater que certaines victimes qui avaient porté plainte, certaines plaignantes, on va dire, pour reprendre un terme judiciaire, qui avaient porté plainte, au bout d'un moment, assez rapidement du reste, se retiraient ou se désistaient de la procédure. Alors, il a fallu un peu chercher dans les dossiers les raisons pour lesquelles elle pouvait se retirer elle-même de la procédure, même si les enquêteurs pouvaient par ailleurs insister pour qu'elle poursuive sa démarche. Elle s'en retirait parce que elles avaient le sentiment qu'ayant porté plainte, elles avaient terminé quelque chose.
D'accord. C'est ça. C'était un aboutissement. C'est pas un point de départ.
Exactement. C'était un aboutissement.
Ce qu'on voit beaucoup dans les victimes enfants d'abus sexuels commis par des clercs. C'est extraordinaire de voir la moyenne de temps de maturation de la plainte, c'est 30, 40 ans, c'est une vie.
Oui, là c'est les psychologues qui disent souvent qu'un enfant peut pas être le dénonciateur de son bourreau d'une certaine façon. Il faut vraisemblablement
surtout si c'est le père, surtout si c'est une autorité de l'école,
surtout si c'est s'il a une sorte de magistère quel qu'il soit, a fortiori une forme d'emprise. Il faut un assez long temps de maturation. Alors il y a des événements différents qui peuvent provoquer entre guillemets la dénonciation ou la plainte, mais dans le cas des affaires que vous citez, Antoine Garapon, il est clair que ces jeunes garçons en plus doivent prendre le temps de la maturation pour devenir des adolescents et des jeunes adultes pour ensuite pouvoir effectivement prendre la parole. C'est encore plus long pour les garçons que pour les filles.
C'est plus long pour les garçons que pour les filles.
En général, c'est souvent plus long pour les garçons.
C'est ça. C'est ce qu'on constate effectivement pour les abus sexuels commis par des clercs. Et monsieur le procureur, Mathieu Bourret, vous confirmez, vous recevez des plaintes très très tardives en matière de sexuelle?
Bien sûr, on reçoit des plaintes très tardives, mais le législateur est allé dans cette logique-là. Ça fait une trentaine d'années que on a repoussé les règles de prescription, où on a allongé les règles de prescription, ce qui n'est pas sans nous poser à nous, magistrats, oui, des difficultés par ailleurs.
Parce que il n'y a plus de preuves au bout de 40 ans.
Parce qu'il est très compliqué de trouver des preuves, il est très compliqué de trouver des témoignages fiables. On sait déjà que le témoignage en soi, le témoignage humain en soi, quelques minutes après avoir constaté quelque chose, est extrêmement friable. Et trois personnes prises dans une même pièce ne verront pas forcément la même chose au même moment. Alors on imagine la difficulté de se souvenir. Et cela vaut aussi bien pour la victime que pour le témoin, que pour le mis en cause.
Bien sûr. Et parfois, dans une relation sexuelle, les deux partenaires ne peuvent avoir des versions absolument contradictoires et être néanmoins de bonne foi, paradoxalement.
Le témoignage et la déclaration, c'est la reconstruction du passé. C'est extrêmement compliqué de demander à quelqu'un de reconstruire une histoire, de reconstruire un passé. Un témoignage, ça n'est rien d'autre que le fait de demander à quelqu'un de se remettre dans une position ex ante et de nous dire aujourd'hui ce qu'il en a vu pour en faire un élément de contemporanéité.
C'est ça. D'autant, Véronique Le Goasiou, que vous écrivez que le consentement est en soi, le consentement sexuel est un objet extrêmement complexe, y compris à ses propres yeux.
Oui, Antoine Garapon, tout à fait. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de ces affaires de viol qui vont être discutées à l'aune de la question du consentement, puisque effectivement Mathieu Bourret l'a dit, les preuves sont quand même extrêmement peu présentes en matière de viol. Et si on écarte même le champ des violences sexuelles, on s'aperçoit que la question du consentement dans les relations sexuelles ordinaires est quelque chose d'extrêmement troublant. Il y a quelques enquêtes qui sont conduites là-dessus, où on pose la question à des personnes qui sont en couple, mariées depuis 30 ans, avec le même compagnon sexuel. Ai-je vraiment consenti et qu'est-ce que ça veut dire?
Et à quoi ai-je consenti?
Et d'ailleurs, si on a l'honnêteté, si je puis dire, de faire l'expérience pour nous-mêmes, dans les relations sexuelles que nous avons par exemple avec notre mari ou notre femme depuis quelques années, ou depuis 20 ans, ou depuis 30 ans, est-ce que la différence entre vouloir, accepter, tolérer, oui mais, je pense que contrairement à ce qu'on aimerait, c'est en réalité une zone extrêmement trouble. Et c'est pourquoi il n'y a pas de raison que ce trouble du consentement n'apparaisse pas dans les affaires considérées comme des viols qui sont sous main de justice.
Ça vous évoque des choses, Mathieu Bourret, des affaires, de la difficulté d'établir un consentement?
À la fois des affaires, des polémiques récentes sur certains dossiers, et puis la difficulté pour le législateur, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, de mettre en œuvre la problématique de la différenciation d'âge par rapport à la minorité sexuelle, par rapport à la majorité sexuelle, et derrière la problématique du consentement. Le législateur a fini par écrire que une différence importante d'âge pouvait être un élément à prendre en compte pour apprécier le consentement.
C'est ça. Mais alors, ce qui est terrible, voilà, c'est vraiment au praticien que vous êtes, Mathieu Bourret, c'est que le législateur est très actif dans ces matières de violence sexuelle. Il est très actif. Il allonge la prescription, il modifie le point de départ, c'est la majorité, etc. Mais dans le fond, ça ne se traduit pas par une augmentation sensible, caractérisée des poursuites. Parce que c'est une chose est d'avoir un délai de prescription de pouvoir, autre chose est de réaliser une affaire.
Ah, je ne dirais pas tout à fait cela, Antoine Garapon, parce que le fait que nous en parlions aujourd'hui est aussi la démonstration que, sur un plan sociétal, les positions prises par le législateur depuis 30-40 ans
ont payé.
Le fait que un certain nombre de paroles se soient libérées ont également payé. Le fait qu'il y ait eu des condamnations tardive avec des personnes mises en cause extrêmement âgées, mais pour lesquelles la justice a fini par passer, ont également payé. Simplement, il n'y a peut-être pas une adéquation complète entre ce qui est attendu au moment où la loi, qui reste un outil, passe et la réalité de la manière dont on peut s'en servir.
Oui, et puis il y a la frustration, d'ailleurs que vous soulignez, Véronique Le Goasio, d'une personne auquel cela demande un travail considérable de porter plainte, se décider à dire publiquement, révéler, vaincre la pression de son entourage souvent. Elle porte plainte et là, il y a des obstacles légaux, judiciaires, qui sont pour elle pas compris et qui peuvent avoir des effets catastrophiques.
Oui, mais je pense pour une raison fondamentale qui est peut-être une méprise au fond. La justice, et je l'ai moi-même découvert en travaillant sur les violences sexuelles, n'est pas, comme je le formule souvent, la chambre d'enregistrement de la plainte des victimes. Alors, elle va enregistrer la plainte au sens formel du terme, mais ensuite, elle ne se fait pas la chambre d'écho uniquement de la plainte des victimes. Ne serait-ce que parce qu'elle repose sur des principes qui sont le principe d'impartialité et d'équité, c'est-à-dire qu'elle doit recevoir la parole de la victime avec et la parole de l'auteur avec la même impartialité et la même équité, c'est-à-dire leur apporter crédit autant à l'une qu'à l'autre de façon égale, si je puis dire. Le principe du contradictoire, qui fait que dès lors qu'on prononce une parole ou on apporte une pièce au dossier, eh bien l'autre protagoniste peut contredire la pièce que l'on a apportée ou la parole que l'on a prononcée. Protagoniste fut-il l'auteur, oui, un expert, un policier, un magistrat, un enquêteur, etc. Et cerise sur le gâteau, si vous me passez l'expression, on peut, à la limite, ne pas être reconnu comme victime au sens judiciaire du terme, dès lors que l'auteur présumé n'a pas été reconnu comme coupable. Donc en réalité, lorsqu'on porte plainte, on entre dans une arène qu'on méconnaît la plupart
du temps.
Et
qu'on ne maîtrise pas.
Qu'on ne maîtrise absolument pas. Et qui peut se retourner presque contre soi. Alors c'est pas du tout une critique contre les magistrats. C'est pas pour dire qu'ils font mal leur travail ou pas du tout du tout. C'est, je pense, pour dire que la justice fonctionne sur des principes, sur des usages aussi vraisemblablement, qui ne vont pas tous dans le sens de la parole d'une victime. Et heureusement. Et heureusement, si vous me permettez, Antoine Garapon, parce que sinon, au fond, il suffirait qu'une victime dise qu'elle a subi telle ou telle violence sexuelle, en l'occurrence un viol, pour qu'une sorte de mécanique se mette en marche et que systématiquement l'auteur soit puni de 15 ans de prison pour un viol simple, et plus si le viol est aggravé. C'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement que ça ne marche pas comme ça.
Je rejoins ce que dit Véronique Le Goasio sur le principe de neutralité. Et je pense que les victimes ont beaucoup de mal à entendre que, a priori, leur parole n'a pas nécessairement plus de valeur que la parole du mis en cause, surtout s'il dénie les faits qui lui sont reprochés. Mais c'est aussi l'honneur de la justice d'être dans cette logique a priori de neutralité. Cette impartialité nous oblige à ne pas prendre pour argent comptant ce qui nous est dit par les uns ou par les autres, du moins a priori. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième, c'est l'aléa. C'est-à-dire que il n'y a aucune espèce de certitude au moment d'un dépôt de plainte sur le devenir de cette plainte.
Oui, et est-ce que vous pouvez concevoir que la victime ressent le questionnement de sa parole comme une injustice.
Antoine Garapon, comme une injustice. C'est-à-dire que tout le paradoxe, et c'est pas seulement vrai pour les violences de nature sexuelle, c'est aussi vrai pour les violences physiques. Tout le paradoxe, c'est que la victime, quand elle vient, elle a sa certitude et elle a sa vérité. Et le fait de lui poser des questions la remet en porte-à-faux et en interrogation pour nous. C'est une nouvelle forme de violence en disant, a priori, nous ne sommes pas forcément dans la même dynamique que vous.
Mais ce paradoxe peut même, au fond, signifier une sorte de distorsion entre la très forte réprobation morale dont les viols font aujourd'hui l'objet, avec ces incitations à lever le voile du silence, à dénoncer, à se battre, au fond, contre les viols, les violences sexuelles et singulièrement les viols. Et, comment dirais-je, la réponse de la justice, qui en réalité ne peut pas donner ce qu'on attend d'elle. Il y a méprise. Moi, j'ai le sentiment clairement qu'il y a méprise. Et du coup, ça pose, de mon point de vue, les limites de la pénalisation des violences sexuelles. Est-ce que vraiment, on n'est pas allé jusqu'au bout de quelque chose, sachant que depuis la loi de 1980, il y a donc 40 ans, quasiment jour pour jour aujourd'hui, 2020, hein, nous sommes, où le législateur, depuis, n'a cessé d'élaborer d'autres lois, on l'a dit, d'allonger les délais de prescription, prescription, de créer de nouveaux délits, d'augmenter le nombre de circonstances aggravantes. Et finalement, on se retrouve avec une justice qui semble dysfonctionner à cet égard.
Véronique Lecoazu, je vous pose la question, puis ensuite je la poserai au procureur. Pourquoi est-ce que la justice est insatisfaisante? Est-ce que c'est parce que les gens sont maladroits, parce qu'elle est majoritairement masculine, parce que elle traite ces affaires-là comme elle traiterait du blanchiment d'argent ou une rixe dans un bal? Ou est-ce que c'est consubstantiel à l'institution?
Oui, Antoine Garapon, je pense que c'est consubstantiel à l'institution, j'en sais rien, au mode de fonctionnement judiciaire. D'autant que la justice, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Derrière le mot viol, qui veut pas dire grand-chose, mais dont on a l'impression que tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Et derrière sa définition légale...
À tort d'ailleurs, parce que la définition légale est beaucoup plus complexe.
Voilà. Et même derrière sa définition légale, un acte de pénétration sexuelle commis par contrainte, menace, surprise ou violence, il n'y a pas deux affaires qui se ressemblent. Et la justice va mettre les mains, si j'ose dire, en tout cas c'est l'impression que l'on a quand on étudie plusieurs centaines de dossiers judiciaires, dans la singularité de l'affaire. Ouais. Dans la singularité des protagonistes, des faits, de l'auteur, de la victime, des circonstances, du contexte, du type de menace, de contrainte, de surprise, de violence. Moi je trouve que c'est incroyable le détail avec lequel elle essaye de travailler.
Et c'est tout son honneur.
Et c'est tout à son honneur. Et c'est tout à son honneur.
Mathieu Boit.
La question qui se pose est de savoir ce qui doit être priorisé. Est-ce que c'est la parole de la plaignante, de la victime, ou est-ce que c'est le respect d'un certain nombre de principes? Et notamment celui de l'impartialité, celui de l'absence d'a priori, celui de la présomption d'innocence, et donc du risque, effectivement, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et de ne pas être en capacité de démontrer la réalité, la matérialité, l'imputabilité et l'imputabilité d'un fait. Je crois que, moi je ne vais pas aussi loin pour interroger la problématique de la pénalisation. Je pense que la pénalisation est absolument nécessaire. C'est pas parce qu'elle est nécessaire qu'elle doit être exclusive de tout autre type de réponse. Et la question qui se pose est vraiment aujourd'hui celle de la priorité que chacun va pouvoir mettre.
5 personnes ont été tuées hier par arme à feu.
Le policier a été mis en examen pour viol par personne ayant autorité. Les faits se sont produits ici, au sein même de l'hôtel.
Selon la magistrate, verser du Coran à l'appui, la loi islamique permet à un mari de battre sa femme.
Cas exemplaire de réseau pédophile.
Placé en détention provisoire pour tentative de meurtre.
Battu quotidiennement par son compagnon, malgré les hospitalisations et plusieurs fractures.
Mis en examen et incarcéré. Il s'est suicidé en prison.
Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir retrouver mon petit garçon. Ça fait 3 ans qu'on me l'a pris.
Fait divers ce matin. Agression ou viol. C'est dans le quotidien. Les médias en raffolent. Perversion criminelle. Sur enfant trop d'abus. Il a trop bu près d'elle.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, toujours avec Véronique Lecoazu et Mathieu Boret. Mathieu Boret, au parquet de Reims, vous avez fait une expérience dans ce domaine-là.
Absolument. J'ai souhaité qu'on puisse interroger les victimes, parce que ce sont d'abord des usagers du service public de la justice, et la justice, c'est d'abord un service public, mais pour savoir ce qu'elles pensaient de l'intervention judiciaire. Et ce travail-là, je l'ai fait avec une association d'aide aux victimes que je souhaite nommer, le MARS, France Victimes 51, et avec le soutien financier de la délégation départementale aux droits des femmes. On a travaillé sur 530 dossiers sur 3 ans, de réponse pénale en matière de violence conjugale et 70 femmes ont accepté de répondre à un questionnaire de 42 questions.
Et alors, quel est le taux de satisfaction, ou exactement l'évolution, parce que c'est pas aussi simple que ça, suivant les intervenants judiciaires et la personne devant qui on porte plainte.
La première chose, et j'en ai été extrêmement satisfait, c'est que quand on demande à quelqu'un son avis, ben il a très envie de le donner. On savait pas si on allait avoir beaucoup de femmes qui accepteraient de revenir sur une histoire, un process
qui est pénible, bien sûr.
Qui est forcément pénible. Mais il y en a 70 qui ont accepté de le faire, 13%, et on a été extrêmement satisfait. Le deuxième point, c'est que pris individuellement, les différents éléments de la chaîne pénale donnent là aussi satisfaction. C'est-à-dire que l'intervention des avocats, des associations, l'intervention de la justice donne satisfaction et la manière dont ces femmes sont accompagnées répond à un certain nombre d'attentes. Mais paradoxalement,
c'est un gros mais.
C'est que quand on leur demande globalement si elles ont confiance dans la justice, eh bien, on passe de 87% de femmes qui disent avant l'intervention judiciaire j'ai confiance dans la justice à 67% après le passage de la justice.
20 points de moins.
On perd 20 points et nous n'avons pris que des affaires pour lesquelles il y a eu une réponse pénale, mesure alternative ou poursuite pénale. Nous n'avons pas pris tous les dossiers que nous classons sans suite, parce que dossiers-là...
On verra sur le classement sans suite qui est très particulier, mais 20... C'est-à-dire que les victimes ont moins confiance en la justice après l'affaire qu'avant.
Absolument, et principalement dans les affaires qui ont donné lieu à mesures alternatives. Ça interroge beaucoup d'ailleurs sur une voie qui est très développée depuis 40 ans, c'est-à-dire...
Mesures alternatives, pour nos auditeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de peine de prison ni de peine, mais il y a une médiation ou des mesures de réparation, etc.
Des sanctions, des réponses pénales qui sont laissées à la main du procureur de la République avec un formalisme bien différent et une symbolique bien différente de ce qui se passe quand on va à l'audience.
Et c'est la symbolique qui manque ?
C'est un des éléments qui manque. C'est sans doute pas le seul, mais la symbolique du procès, même du procès simplifié dans le système de plaidé coupable, est sans doute beaucoup plus fort que la mesure alternative.
Ça vous surprend, Véronique Louguasio ?
Non, ça me surprend pas. Je trouve très intéressant cette enquête. Ça me fait penser que, en fait, on ignore le plus souvent, même on ignore tout court, ce qu'attendent les victimes de la justice, ce qu'attendent des plaignantes et des plaignants de la justice. À ma connaissance, mais je pense qu'aucune enquête n'a réellement, et aucune recherche même, n'a été réalisée sur ce sujet. Qu'est-ce qu'une personne qui vient porter son affaire auprès d'un commissariat de police, d'une brigade de gendarmerie ou directement auprès du procureur attend, au fond? Je ne suis pas sûre qu'on se soit réellement posé la question. Donc, je ne suis pas très surprise du moins 20 points, mais ça renforce le sentiment que j'ai qu'il faudrait quand même qu'on mène un jour un vrai travail d'investigation sur ce que les victimes... Personne victime attend de la justice.
Mais Véronique Louguasio, c'est énorme ce que vous dites, parce que ça veut dire que toute la campagne MeToo, toute la sensibilité actuelle, qui est une bonne chose fondamentalement, repose sur une sorte d'évidence de ce qu'attendent les victimes. Et dans le fond, on ne sait pas ce qu'elles attendent.
Non, je pense qu'on ne sait pas. Le mouvement MeToo et Balance ton port, pour lequel j'ai éminemment de respect, va dans le sens, au fond, de la levée du voile du silence et de la dénonciation et du fait d'aller porter auprès de la justice les violences que l'on subit. Mais enfin, si c'était aussi simple que ça, le taux de plaintes serait beaucoup plus élevé depuis longtemps. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Et c'est ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est pas la justice qui est mise en cause de ce point de vue-là. Encore que, même les plaignantes et les plaignantes en l'occurrence, qui ont affaire à la justice, finalement, après le traitement de leur affaire, sont en majorité satisfaites quand même. 67%, c'est quand même... ça reste majoritaire. Tout n'est pas négatif. Mais enfin, il faudrait quand même s'interroger pour savoir pourquoi est-ce que ça reste aujourd'hui aussi difficile de porter plainte pour une affaire de violence conjugale ou pour une affaire de violence sexuelle.
Mathieu Brett.
Je crois qu'effectivement, il y a une absence de questions sur ce qu'attendent les victimes. Parce que quand une victime vient déposer une plainte, quelle est la dernière question qu'on va lui poser ? C'est souhaitez-vous déposer plainte ? On ne lui demande jamais in fine du procès verbal. Qu'attendez-vous de la justice ? Et je pense que la problématique est aujourd'hui de savoir, d'une part, ce qu'elles attendent, et d'autre part, ce que la justice peut apporter. Peut-être qu'on a un hiatus, peut-être qu'on ne peut pas apporter ce qui est attendu, et qu'on ne prévient pas la plaignante, que ce hiatus peut exister.
Vous savez qu'en Suisse, le procureur de Genève s'interroge sur le fait de, exact précisément ce que vous dites, c'est-à-dire de demander à la victime d'abus sexuels qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Est-ce que vous attendez qu'on établisse les faits ? Est-ce que vous attendez une peine ? Est-ce que vous attendez une confrontation avec votre partenaire ?
Mais c'est une réponse qui est complètement légitime dès lors que on repart de l'idée fondamentale qu'on est la justice un service public et que au-delà des éléments de process, la question qui doit être posée et qui arrive en confrontation, c'est d'une part qu'est-ce que vous attendez du service public de la justice et d'autre part qu'est-ce qu'on peut apporter. Est-ce qu'on est en résonance ou est-ce qu'on est en dissonance? Peut-être que la justice peut apporter ce qui est attendu, peut-être que la justice peut apporter des choses différentes de ce qui est attendu, en mieux ou en moins bien. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir cette confrontation.
Véronique Le Goasu.
Je pense que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, au fond ? La justice pourrait poser la question à la victime. Qu'est-ce que nous, service public de justice, effectivement, pouvons faire pour vous ?
Ce que je voudrais souligner, c'est que ça me semble absolument spécifique à la matière sexuelle. Un petit délinquant de banlieue, on lui dit pas « qu'est-ce que vous attendez de la justice ?» On lui dit « c'est comme ça, c'est pas autrement, Mathieu Gouette. »
C'est spécifique aux atteintes aux personnes.
Oui,
parce que dans les atteintes aux biens, on sait très bien ce qui est attendu, c'est la rétribution financière, c'est l'indemnisation. Combien de personnes nous disent sur des cambriolages, je sais bien que vous les retrouverez pas, mais j'ai besoin du papier pour l'assurance. Donc on sait très bien ce qui est attendu, ce qui est recherché. Dans les problématiques de diffamation, on sait que c'est l'honneur qui doit être réparé, qui doit être remis. Sur les problématiques d'atteinte aux personnes,
et encore plus
des
violences sexuelles, oui.
Physique ou sexuelle, les réponses sont multiples. Parce que, là aussi, je vais un petit peu défendre ma paroisse, la justice peut apporter différentes réponses.
C'est assez nouveau, Mathieu Bourrette. Ça, c'est ces 30 dernières années comme évolution. Je veux dire que la justice puisse apporter plusieurs réponses. Cette idée de réponse pénale, elle est tout à fait moderne quand même.
Mais c'est la démonstration que la justice sait évoluer avec son temps et est un système qui peut être dépoussiéré, peut se remettre en question, peut aussi être en adéquation avec les évolutions sociétales. Moi, c'est quelque chose qui me rassure, même si par certains côtés, ça m'interpelle.
Parce que vous les avez rencontrées, ces femmes, en plus, Mathieu Bourrette.
J'ai par ailleurs souhaité en rencontrer quelques-unes dans le cadre d'une table ronde avec le journal L'Union à Reims, et ça a été une confrontation. Et c'était finalement la position inverse. Je dis pas que j'étais de passer d'accusateur à accusé, mais en tout cas, c'était moi qu'on interrogeait.
Véronique Le Goasu.
Moi, je pense qu'il y a un point aveugle dans le fonctionnement judiciaire des violences sexuelles ou des violences faites aux personnes, c'est la question de la protection des plaignantes et des plaignants. Au fond, qu'est-ce qui arrive à une... A fortiori, d'ailleurs, si les faits, les violences ont été commises par une personne en très forte proximité de la plaignante ou du plaignant. Un conjoint, un amant, un voisin, un membre de la famille.
Ce qui est souvent le cas.
Ce qui est
la majorité des cas.
Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une personne, une femme, un adolescent, disons même un homme ou un garçon, va porter plainte dans un commissariat de police ou une garde de gendarmerie. On lui demande si, effectivement, elle veut porter plainte. Et après ? Mais après, elle rentre chez elle. C'est-à-dire que la question de la protection de la victime, qu'est-ce que veut, j'imagine, du moins une personne qui subit des violences conjugales quotidiennes ou qui subit des violences sexuelles de la part de quelqu'un qu'elle risque de rencontrer le soir même si c'est son époux ou son conjoint, voire le lendemain si c'est son collègue de travail. Elle veut que ça s'arrête. j'imagine tout bonnement, avec elle, vu que ça s'arrête, avant même ou en parallèle même d'une éventuelle procédure pénale qui pourra conduire à la condamnation de l'auteur. Or, en matière de protection des victimes, je trouve que nous sommes au degré quasi zéro de la réflexion et de l'élaboration des mesures. Il y a certes, j'anticipe sur ce que M. Bourret veut dire, l'ordonnance de protection de 2010, qui est pour la première fois, en tout cas une des premières fois, un acte de la justice civile, et non pénale d'ailleurs, mise en œuvre pour protéger les victimes, qui néanmoins est relativement peu utilisé à ma connaissance.
Et en plus, pour grave que... danger.
Oui, grave danger. Et en plus, pour que ça puisse fonctionner, il faut quand même que la victime apporte un certain nombre de preuves, là aussi, dans le cadre de sa requête, pour qu'elle puisse bénéficier de cette protection. Mais je pense que c'est une des grandes oubliées de la procédure judiciaire, c'est comment les victimes peuvent-elles être protégées des violences qui leur sont faites.
Mathieu, voilà.
Alors, là, pour le coup, je mettrai un bémol à ce que dit Véronique Le Goasiou. Il y a effectivement le téléphone grave danger, il y a l'ordonnance de protection. Maintenant, il va y avoir le bracelet répulsif. Mais quand j'analyse l'étude que nous avons faite, même si c'est vrai qu'elles attendent une protection, cette baisse du taux de confiance est indépendant de la réitération des faits, puisque la plupart des affaires permettent d'arrêter les faits. Mais, je pense qu'elles attendent autre chose. Elles attendent quelque chose que, pour le coup, on peut pas leur donner, c'est-à-dire le retour à un passé apprécié. Voilà. Parce que, justement, la différence avec les atteintes aux biens, c'est que dans ces violences conjugales ou ex-conjugales, on ne part pas de rien. On part d'une situation qui a d'abord été extrêmement positive, une situation amoureuse, une situation sentimentale, etc. Et on est arrivé à un point de rupture et à un point où celui qu'on a aimé devient son bourreau.
C'est ça.
Et je pense qu'un certain nombre recherche, au-delà de l'arrêt, au-delà de la protection, le retour à un passé qui ne peut plus.
Ce que vous dites est très très vrai des enfants victimes d'abus sexuels de près de Claire, par exemple. Et ce reproche vient toujours, ils m'ont volé mon enfance.
Bien sûr.
Ils m'ont volé ces moments merveilleux qui devaient me gonfler pour la vie et qui, en fait...
Et ceux qui l'ont fait, Antoine Garapon, étaient des proches, que ce soit en matière physique, en violence physique ou en violence sexuelle. Et finalement, c'est la quête d'un âge d'or qu'on ne peut pas rendre. Un passé qu'on ne peut pas retrouver. Un équilibre.
Et que la justice peut
pas
rendre.
Un équilibre qui est définitivement cassé. Et il y aura toujours un sentiment d'incomplétude chez la victime si elle pense que la plainte, l'enquête pénale va permettre d'effacer un certain nombre de choses pour retrouver une sorte d'Éden que nous ne pouvons pas donner.
Un mot sur le bracelet répulsif pour nos auditeurs.
Mathieu, oui, c'est un nouveau dispositif qui rentre en vigueur ces tout prochains jours, ces toutes prochaines semaines sur tout le territoire national et qui permet d'améliorer la protection en mettant un système de signal électronique interdisant l'auteur de se rapprocher de sa victime. Et c'est quelque chose que la France importe de l'Espagne, qui est assez en avance sur nous.
Véronique Le Goasiou.
Oui, pardonnez-moi, Monsieur Bourret, je suis un peu dubitatif ou un peu plus dubitatif que vous sur le fait que la justice ne permet pas de retrouver ce que vous appelez une sorte d'âge d'or de l'enfance ou une vision un peu angélique du couple qui parfois n'a jamais existé dans les dossiers auxquels nous pouvons affaire. Moi, je traduirais plus les choses vers le futur, c'est-à-dire que les violences conjugales, je ne sais pas trop, mais ce qui est clair, c'est que les violences sexuelles peuvent en partie être comprises comme des altérations de la relation. Très clairement. Et l'un des effets de ces violences sexuelles, c'est l'incapacité des personnes, ou la très grande difficulté des personnes, à entrer en relation avec autrui, après. Parce que la confiance est complètement perdue. Et là, effectivement, où on pourrait aider les victimes, est-ce le rôle de la justice pénale? Franchement, j'en doute. Mais on peut en discuter. Je ne sais pas, d'ailleurs, de qui ça pourrait être le rôle. Vraisemblablement davantage de la justice civile. Je pense que pour l'avenir, pour l'après, effectivement, comment la justice peut aider une victime à ne plus être victime? Et à faire en sorte qu'elle puisse regagner le monde commun, si j'ose dire, et entretenir à nouveau des relations conjugales, charnelles, sexuelles, familiales, les mieux qui soient, d'une certaine façon. Oui, les plus constructives qui soient. Donc c'est moins une sorte de retrouvaille avec un passé dont on peut toujours questionner, comment dirais-je, l'excellence, entre guillemets, que comment peut-on l'aider à avancer pour que dans les années à venir, elle sorte de son statut de victime et puisse renouer lien avec le monde environnant et avec ses proches.
Mais parce que le passé, c'est aussi une image de soi. Oui, Mathieu Bourrette.
Là, je pense que c'est une grande différence entre les violences sexuelles et les violences physiques, notamment dans un contexte conjugal, dans la mesure où nous avons beaucoup de victimes en matière de violences physiques qui retirent leurs plaintes, ce que nous n'avons pas en matière de violences sexuelles, de victimes qui accompagnent les mises en cause, jusqu'au procès de victimes qui prennent la place de l'auteur en disant finalement si j'ai été battu c'était de ma faute, c'est moi qui avais un comportement qui poussait à l'acte, chose que nous voyons beaucoup moins, voire pas du tout en matière de violences sexuelles.
Alors, il y a énormément de choses à dire, mais la difficulté aussi du contexte des faits. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est sortie récemment sur le taux de viol des étudiantes. Et qui montre que ce taux est... Vous pouvez en dire un mot peut-être?
Non, je ne connais pas l'étude, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Faut que je la regarde.
Elle montre quand même, elle montre une proportion très considérable de victimes. Alors là aussi, chiffre noir. Et donc, Mathieu Bourrette, la difficulté du contexte. Et je pense notamment à l'alcoolisation des victimes, qui était une grande question aujourd'hui, dont on ne sait pas quoi faire.
En matière de violence physique, 80 à 90% des faits que nous enregistrons à Reims sont commis sous alcoolisation. Je n'ai pas non plus vu cette étude, mais l'expérience que j'ai des affaires d'agression sexuelle ou de viol dans un contexte étudiant par exemple et dans un contexte festif est souvent le fait de personnes qui s'alcoolisent, dans les deux cas avec un effet de désinhibition énorme, d'oubli de part et d'autre. D'ailleurs, on peut avoir aussi des victimes qui sont alcoolisées. On a eu un certain nombre de plaintes qui émanaient de personnes qui avaient passé des soirées en boîte de nuit et qui pensaient s'être faites agresser sexuellement dans ce même type de contexte. La question véritablement de l'alcoolisation des jeunes avec ces systèmes de binge drinking que nous connaissons depuis plus de 20 ans et que nous avons importé du Royaume-Uni, ces alcoolisations extrêmement massives avec des alcools forts
extrêmes
et des comportements qui sont aujourd'hui de même nature chez les garçons et chez les filles est une vraie difficulté.
C'est un exemple très intéressant, ces histoires alcoolisées, et même sans revenir au binge drinking, il suffit d'une soirée un peu arrosée, une fête entre jeunes ou moins jeunes du reste. Oui. Ce sont des histoires intéressantes pour le débat qui est le nôtre ce soir, parce que dans les dossiers classés que j'ai pu étudier, c'est une des causes qui revient le plus fréquemment.
Bien sûr, et c'est ce qu'on montrait d'ailleurs le rapport de l'inspection sur les homicides conjugaux.
En fait, ce qui est intéressant dans ces affaires, c'est que la justice ne se prononce même pas sur les faits. Parce qu'elle ne peut pas se prononcer sur les faits. Donc elle ne dit même pas que le viol n'a pas eu lieu, ni même que c'était pas tel auteur ou telle victime. Elle dit en gros, si je traduis à travers l'examen des dossiers judiciaires, je ne peux pas faire mon travail. Puisque la plaignante ou le plaignant est dans l'incapacité, parce qu'il était alcoolisé ou sous l'emprise de produits stupéfiants, de produire un récit suffisamment circonstancié des faits ou suffisamment élaboré des faits pour que la justice puisse commencer à travailler. Donc c'est un bel exemple, si j'ose dire, d'une justice qui n'a pas la matière minimale suffisante pour commencer à investiguer. Dès lors même, pardonnez-moi, je termine là-dessus, dès lors même que les enquêteurs incitent la victime à se remémorer, vont essayer de l'aider éventuellement pour savoir où ça s'est passé, qui était présent, les noms des gens, etc., etc. Mais il peut arriver que les souvenirs de la plaignante soient si elliptiques que la justice ne peut pas faire son travail.
C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens, ce fameux soir et on se promène. On ira loin, je te le promets, je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps, je devais froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci? Ça sentait le roussi, mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit, tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé, je fais du rap, j'aime ce que je fais, c'est des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on se met trop en mer. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on se met trop en mer. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat. Il est trop tard, il me dit, tu restes avec moi. C'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse. Puis en baisse, il m'a relevé, m'a embrouillé. Puis m'a dit, ferme ta gueule Mélanie. Et dis à ta mère que tu rentres mardi. Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit. J'ai eu peur et j'ai souffert. Mais les yeux, baisser la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour en aveugle, mais j'ai tout vu. C'était écrit, malheureusement, j'avais pas.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
J'étais bloqué, j'avais peur, mais je crois que j'ai eu tort.
Esprit de justice, toujours avec Véronique Le Goasiou et Mathieu Bourrette pour parler de la prise en charge par la justice des violences sexuelles. Alors, Mathieu Bourrette, procureur que vous avez des idées, j'imagine, sur qu'est-ce que la justice pourrait mieux faire ?
Peut-être qu'avant de se demander, Antoine Garapon, ce qu'elle pourrait mieux faire, oui, on peut rappeler ce qu'elle fait,
oui,
déjà.
Oui, déjà. Oui. Elle est l'écoute des victimes, ce que vous avez fait. Elle les invite au tribunal.
Elle les invite au tribunal, beaucoup viennent, beaucoup prennent des avocats. On a un système, il ne faut pas l'oublier, où l'aide juridictionnelle aide aussi les victimes. On a créé des bureaux d'aide aux victimes. Enfin,
elles sont très contentes de leur avocat, d'ailleurs, dans l'enquête.
Et effectivement, elles sont extrêmement contentes de leur avocat. 25% d'entre elles bénéficient de l'aide juridictionnelle. Plus de 70% demandent des dommages et intérêts. La quasi-intégralité en obtiennent. Et la quasi-intégralité en plus réussissent à faire recouvrer ces dommages et intérêts. Donc,
Un fonctionnement quand même qui marche.
Mais bien sûr, sur un plan matériel, sur un plan juridique, le système fonctionne et il faut pas l'oublier. Vous le disiez tout à l'heure, on a une majorité de victimes qui sont satisfaites. Au-delà de cet élément, évidemment, la symbolique de l'audience a pendant longtemps sans doute joué. Je pense qu'aujourd'hui, du fait des procédures simplifiées, qui sont les procédures dites de plaider coupable, il y a sans doute deux éléments qui sont attendus.
En deux mots pour nos auditeurs, plaider coupable, elles arrivent. On se met d'accord sur les faits.
L'auteur reconnaît les faits, on se met d'accord avec le procureur sur une sanction et les victimes peuvent demander leurs dommages et intérêts devant le juge.
Et ça les frustre un peu.
Je ne sais pas si ça les frustre parce que on est dans une logique d'équilibre. Peut-être qu'on n'a pas le même temps d'audience et la même symbolique d'audience, même si ça se passe dans une audience, il y a un juge en robe qui rend une décision, que ce qu'on peut connaître usuellement, traditionnellement. Mais d'un autre côté, la victime, elle est aussi dans l'attente d'une réponse qui se fasse dans des délais qui soient raisonnables par rapport à la date de commission des faits. Et effectivement, ces procédures simplifiées ont raccourci le temps judiciaire sans forcément dégrader la réponse pénale. Et je crois que cet élément-là, cet élément du temps, il reste encore extrêmement important pour une victime. Pouvoir être entendu dans un temps qui ne soit pas un temps absolument interminable
Elle. Et puis qu'il soit pertinent socialement et psychologiquement, Véronique Le Goasiou.
Oui, mais bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que les victimes veulent. Donc, j'écoute avec beaucoup d'intérêt Mathieu Bourrette. Je l'ai dit tout à l'heure. Je rêverais de pouvoir une recherche un peu élaborée sur les attentes des victimes à l'égard de la justice, mais plus largement, même à l'égard du corps social, je dirais, par rapport aux violences qu'elles subissent. Je pense que les choses ont quand même, pour aller dans le sens de Mathieu Bourrette, ont quand même progressé, se sont améliorées. On pourrait parler de la formation des magistrats, de la formation des policiers, de la formation des gendarmes, des choses qu'on connaît maintenant sur les violences sexuelles, l'accueil des victimes dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police. Je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent et qui font que la justice est certainement plus à l'écoute qu'elle ne l'était auparavant par rapport aux victimes. Il n'en reste pas moins que la sociologue que je suis regarde les choses avec beaucoup de distance et un peu de froideur, il faut bien rien dire. Et le fait est qu'aujourd'hui, deux tiers des affaires de viol sont classées. Attention, je n'ai pas un propos normatif et une posture normative. Je ne dis pas qu'il faut que tous les viols finissent aux assises. Je constate juste que deux tiers d'entre eux sont classés pour des raisons qu'on a déjà évoquées. C'est pourquoi, moi, je pose quand même, même si on est ce soir dans une émission qui parle de la justice, je pose quand même la question des limites de la pénalisation.
Oui, bien sûr. Mais alors, il y a deux questions dans ce que vous posez, Véronique Le Goasiou, que je transmets à notre procureur. C'est que, d'une part, il y a les limites de la pénalisation. Deuxièmement, le classement sans suite. Est-ce qu'il est suffisamment expliqué aux victimes, le classement sans suite? Pourquoi, passez-moi l'expression, on les envoie pas au casse-pipe dans une procédure qui, à l'évidence, n'aboutira pas?
Mais je crois que vous pointez sans doute aujourd'hui la principale faiblesse du système judiciaire. Pendant très longtemps, on n'a pas pris en considération la victime. À aucun moment de la chaîne pénale. Moi, j'avais envie de dire, pendant longtemps, la victime n'a été qu'un élément constitutif de l'infraction. Pour qu'il y ait des violences, il fallait qu'il y ait une victime. S'il n'y avait pas de victime, il n'y avait pas de violence. Bon, c'était un élément constitutif de l'infraction de nature purement juridique, purement technique. Et puis, depuis 30, 40 ans, aussi bien en matière sexuelle qu'en matière de violence physique, il y a eu un accompagnement qui s'est fait sur toute une partie du process et de la chaîne pénale, c'est-à-dire l'amont du procès et pendant le procès. Mais il manque aujourd'hui, à mon sens, un autre type d'accompagnement. C'est-à-dire l'accompagnement une fois que la décision de justice a été rendue. Que ce soit une décision de classement, et je vais rebondir sur la question que vous me posez, ou après le procès. C'est-à-dire que la justice, finalement, elle sert à quoi? Elle sert à produire de la décision judiciaire, que ce soit
ça,
le parquet.
Ça c'est le point de vue interne à l'institution. Ça.
L'analyse purement clinique, c'est nous produisons les décisions de justice et le droit est un outil. Une fois que nous avons produit ces décisions de justice, eh bien, nous en avons terminé de notre mission. Et je crois qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés pour nous, c'est de considérer que notre mission va au-delà de la simple production de décisions de justice. Que ce soit des classements, ou que ce soit des décisions correctionnelles ou de cour d'assises. Expliquer un motif de classement avec une individualisation de cette explication qui ne soit pas qu'un document type, c'est évidemment quelque chose que nous ne faisons pas et que nous devrions mieux faire, et on pourrait débattre des moyens pendant très longtemps. Mais de la même manière, une fois qu'une décision de justice est rendue, ce n'est pas qu'aux avocats, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, d'expliquer pourquoi une décision de justice a été rendue. Ça peut être aussi au ministère public d'expliquer pourquoi, finalement, malgré une poursuite, eh bien, il y a une relaxe qui a été prononcée. Ça peut être le rôle de l'association d'aide aux victimes, d'orienter sur la mise à exécution effective des dommages et intérêts, et puis d'expliquer ce qui va se passer pour la personne qui est condamnée. C'est compliqué, une décision de justice. C'est compliqué à lire, ne serait-ce que lire une décision de justice. Ça fait quelques années, mais c'est très court. On a arrêté les considérants très bien, mais la rédaction même, la structuration même d'une décision de justice est quelque chose qui doit être accompagné.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'espère qu'on y arrivera. La pédagogie du fonctionnement judiciaire, qui, je pense, est largement méconnue par la majorité de nos concitoyens, du reste, dès lors qu'ils n'ont pas eu affaire à la justice eux-mêmes en tant que justiciables, je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner, effectivement, à expliquer les différentes étapes, et surtout à jouer franc jeu, dès le départ, en disant « attention madame » ou « attention monsieur », « attention jeune homme », ce n'est pas parce que vous portez plainte que vous allez vers une condamnation. D'ailleurs, qu'attendez-vous de cette plainte, je le répète, et voilà ce qui va se passer pour vous.
C'est ça. Et le vécu des audiences, pour vous, sociologues,
c'est terrible.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Et j'invite tous nos auditeurs. Alors, encore une fois, c'est pas contre les magistrats. J'ai l'impression de passer pour celle qui va critiquer la justice. C'est pas du tout ma position. Mais c'est vrai que quiconque peut d'ailleurs se rendre à un procès d'assises pour viol, puisque les procès sont publics. La justice est un service public, comme l'a dit Monsieur Bourrette, et on peut assister aux audiences, aux jugements. Il est frappant de constater, par exemple, sur un procès d'assises qui va durer 2 jours à peu près, parfois un peu plus pour une affaire de viol, pour peu qu'elle soit un peu compliquée, le premier jour se passe quasiment uniquement autour de l'auteur et des faits. Et c'est assez sidérant de voir la plaignante, la victime, qui est soit assise dans la salle, soit si elle s'est constituée partie civile, elle est un peu plus près du tribunal, dont on ne dit rien. à laquelle on ne pose aucune question. Symboliquement, en tout cas, ça c'est quelque chose de fort. Après, c'est une vraie question de savoir si, de s'interroger sur la place de la victime dans le procès pénal, dans le jugement, bien sûr. Là, pour le coup.
Oui, et avant le jugement, il y a quand même l'audience, parce que il y a aussi une revendication qui, à mon avis, est absolument légitime, mais je vois pas comment on pourrait s'en sortir, de ne pas se servir d'arguments qui vont déconsidérer la victime.
Oui, mais dès lors qu'on est dans le principe du contradictoire, et même si on y met les formes, quand on y met les formes, de toute façon, une personne qui vient, qui a été victime d'un viol récemment ou il y a plusieurs années, qui a le courage, parce qu'à mon avis, il faut un sacré courage pour faire cette démarche-là, d'aller porter la victimation qu'elle a subie dans l'espace public, parce qu'au fond, c'est ça, et qui peut s'entendre contredire dans les propos qu'elle tient, c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal. Et ça, je ne vois pas comment on peut l'éviter.
Si ce n'est une éthique du procureur, une éthique du président, une manière d'interroger, une manière de requérir, de défendre.
Mais quand bien même, et je pense que mes collègues le font, je le vois, je le constate, je le vis, on n'empêchera jamais, et c'est aussi l'honneur de la justice, un avocat de la défense, d'aller très très loin dans la manière dont il défend son client. On n'empêchera jamais un accusé de remettre en cause, et c'est aussi son droit, jusqu'au droit de mentir, les déclarations de la victime. Et puis on n'empêchera jamais chacun d'entre nous d'avoir un jugement moral sur ce qu'il entend. Parce qu'il faut pas oublier que je crois qu'il n'y a pas plus voyeur que la justice. Il n'y a pas plus voyeur que le procès pénal. On met effectivement tout sur la table en matière de violence physique, en matière de violence sexuelle, en matière de viol. On va quand même au plus profond de l'intimité de chacun d'entre nous. C'est quelque chose à la fois d'extrêmement violent, mais de malheureusement nécessaire. Nous l'analysons de manière clinique, mais nous sommes les seuls à analyser de manière clinique.
Les gens
la victime,
ne vivent pas, les
la victime ne l'analyse pas de manière clinique, et les gens qui l'entendent l'analysent pas de manière clinique.
Véronique Le
Goyzou. Oui, c'est très très important ce qui vient d'être dit là. Il ne faut pas oublier qu'en matière de violence sexuelle, il est aussi question de sexe. Oui. C'est quelque chose qu'on dit assez peu parce que souvent on analyse les viols et les violences sexuelles comme des rapports de pouvoir, ce qui est tout à fait vrai. Mais il est aussi question de sexe, de sexualité, de pratiques sexuelles, de désirs, et les questions qui sont posées aux plaignantes, aux plaignants, aux victimes peuvent être extrêmement intimes, extrêmement gênantes, extrêmement touchantes. Du reste, ce sont les mêmes qui vont être posées à l'accusé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être sacrément armé et bien entouré par une justice vraisemblablement bienveillante, vous avez parfaitement raison de le dire, pour dire comment on était habillé ce jour-là, comment on fait l'amour, dans quelle position on fait l'amour, avec qui, combien de fois par jour, est-ce qu'on aime ça, parce que c'est tout ça, éventuellement, qui va nous être posé, alors qu'on a été victime d'une violence.
Un mot sera le dernier, Véronique Le Goyzou, pour la sociologue, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux comprendre cette contradiction, finalement, cette aporie, j'allais dire, d'une demande de justice qui ne peut pas être satisfaite en l'état, en un mot.
Moi, je pense que c'est l'axe de la protection des victimes sur lequel il faut maintenant travailler. On a les réprobations, l'appareil pénal et l'appareil législatif, il est suffisamment blindé, on a suffisamment de délits, on a l'appareil procédural, on a tout ce qu'il faut d'une certaine façon. Il nous manque la protection des victimes et l'accompagnement des victimes. Et je ne suis pas sûre que ce soit à la justice de le faire.
Moi, je pense que il faut que la justice ait, dès le départ de la plainte, signe un contrat de confiance avec la victime, où on indique ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de donner, et jusqu'où est-ce qu'on ira, y compris après le procès, s'il doit y avoir procès.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce débat passionnant.
Merci
à vous.
Esprit de justice, Véronique Le Goyzou, Mathieu Bourrette, Bernard Laniel, Zora Vimier, Sandrine Chapon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.